avec des outils. Il va falloir des pelles et des pioches ce soir. On va aller creuser des puits. Vous êtes venus comme ça sans rien. Pelles et pioches. C'est dans Genèse 26. Genèse 26, verset 12. Donc avec vos pelles, vos pioches, vos casques, vos lanternes. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque, de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Essek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car il dit « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans ce pays ». Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans une nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel et y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Ahuzzath, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité et que nous ne t'avons pas fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Il l'appela le puits de Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dans ce récit, il creuse des puits, et il creuse des puits, et il creuse des puits. Il en débouche, il en creuse, et Isaac est au bénéfice de la bénédiction de Dieu, parce que son père a été fidèle. Quelque part, il bénéficie de cette alliance-là. Un peu plus haut dans le texte, je n'ai pas pris tout le chapitre, parce que sinon ça faisait beaucoup, déjà que c'était long la lecture, mais on voit aussi que Isaac, lui, n'a pas toujours été réglo dans sa façon de vivre, puisqu'à un moment donné, il fait passer sa femme pour sa sœur. Son père a fait exactement pareil. Mais il remet tout à plat, il se remet à niveau avec Abimélec, il se réconcilie. Et les versets qui suivent après, c'est on voit que dans versets 12 et 13, on voit qu'il fait une bonne récolte, on voit quelque part, on comprend que Dieu a pardonné, quelque part, son attitude, puisqu'il y a une remise à plat, ils font la paix, quelque part. Et il commence sur une vie qui est... Il continue sur sa vie, et il est béni. Il est béni, il devient riche, voire même très riche. Et il est très riche, et quand on réussit, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et les Philistins sont jaloux de sa réussite, sont jaloux de sa bénédiction. Et je me suis dit, il y a des fois dans nos vies, on réussit des choses et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. quand nous on s'engage sur la voie de Dieu et qu'on suit Dieu, qu'on est obéissant, et bien quelque part on est béni. Le Seigneur ouvre des portes, le Seigneur bénit parce qu'il est avec nous. Et il nous bénit dans ce que l'on entreprend parce qu'on lui confie nos projets. Et Dieu est à la tête de nos projets. On ne fait pas les choses sans le consulter, donc quelque part il y a bénédiction, il y a la bénédiction qui arrive. Et les Philistins dans nos vies, je me suis dit, ça peut être, évidemment la première des choses, ça va être l'ennemi de notre âme, ça va être le diable qui va être contre nous. Ça ne lui plaît pas qu'on réussisse. Son désir à lui, c'est qu'on soit malheureux, c'est qu'on soit triste, c'est qu'on soit au fond du trou, qu'on soit au fond du puits. Lui, il veut nous voir au fond du puits et avec la boue qui est au fond du puits. Il veut nous voir là. Donc lui, ça ne lui fait pas plaisir. Il y a des fois des événements de vie qui font que ça nous tire... Il y a des événements de vie qui pourraient faire que on n'est pas... Ça va à l'encontre de ce que Dieu est en train de mettre en place pour nous. Il y a soi-disant des amis, les soi-disant amis qui sont jaloux parce qu'on réussit, parce qu'on ce qu'on entreprend, et bien on est béni. Et ces gens-là, ils ne sont pas contents pour nous. Et je me dis, et nous, comment on est quand quelqu'un réussit? Est-ce qu'on est heureux pour lui? Est-ce qu'on sait se réjouir de la bénédiction de notre frère? Ou est-ce qu'en notre cœur, ça suscite quelque chose de la jalousie? La jalousie, elle vient et elle entraîne la haine, elle entraîne la division, et c'est un péché, et c'est quelque chose qui vient se mettre à l'intérieur de nous. C'est ce fameux lézard qui rentre dans la muraille, qui trouve une petite faille et qui rentre comme ça, et petit à petit, la jalousie vient et nous sépare de nos amis. La jalousie qui s'installe entre deux amis va séparer ses amis. Et les Philistins, c'est ça qui se passe. Ils voient ça et alors, hop, et quelque part, ils le mettent dehors. Ils disent, prends tes affaires et va-t'en, t'es trop béni, tu deviens trop puissant, tu nous gênes, va-t'en, ça peut pas marcher, on ne peut pas fonctionner ensemble. Donc va-t'en. Mais Dieu veut bénir tout le monde de la même manière. On n'aura pas forcément la même bénédiction parce qu'on est différent. Mais Dieu veut bénir tout le monde. Et dans le sens de la bénédiction, elle conviendra exactement à ce que l'on a besoin. Quand on veut l'autre, quelque part, on développe la convoitise. La jalousie, la convoitise, ça marche ensemble. Parce que j'aimerais avoir ce que l'autre a. Mais si vous aviez ce que l'autre a, ça ne ferait pas forcément de vous un être plus heureux ou plus épanoui en Christ. Parce que vous n'avez pas besoin de ce qu'il a, vous avez besoin de ce que Dieu a prévu pour vous. Ne prenez pas la bénédiction d'un autre pour vous, elle n'est pas pour vous. Dites merci Seigneur pour la bénédiction que mon frère a reçue parce que ça le fortifie, ça le bénit, ça l'encourage dans sa démarche, ça l'encourage peut-être dans sa famille, ça l'encourage peut-être dans son travail, ça l'encourage peut-être dans sa relation avec Dieu, même certainement. Mais ce n'est pas forcément ce qui vous correspondrait à vous, parce qu'on est unique. Prenons la bénédiction qui est la nôtre. Cherchons notre bénédiction. Ne vivons pas à travers quelqu'un d'autre. Cherchons Jésus et prenons la bénédiction pour nous. Être béni. Quand mon frère entreprend quelque chose, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine de l'Église, que je sache me réjouir. Que ça me fasse plaisir. Quelque part, Isaac, je me suis dit, c'était un entrepreneur, parce que c'était une grosse structure. Des bergers, du bétail, des gens, des serviteurs. Tout le monde n'est pas capable d'être un dirigeant. Ne soyons pas jaloux de gens qui ont des postes à responsabilité. Il faut l'avoir en nous, pouvoir assumer. Ce n'est pas simple. Et puis, il faut avoir les épaules pour ça. Mais soyons reconnaissants à Dieu parce que ces gens-là qui prennent des responsabilités, ou je pense à un pasteur qui est dans une église, dans son travail, il a la responsabilité des gens qui composent l'église. Les brebis, il en est responsable. Et prions. Quelqu'un qui a une église qui est en difficulté, prions pour lui parce que ce n'est pas simple. Quelqu'un qui a une église en pleine expansion, prions pour que ça continue à rester dans la volonté de Dieu, pour qu'il soit encouragé, pour qu'il puisse tenir comme il faut, quelque part, ce que Dieu veut, le projet que Dieu a prévu pour cette assemblée de chrétiens, ça soit là, qu'il le vive pleinement. Prions, encourageons, portons. Et les Philistins, ce sont des saboteurs, ils sont arrivés et ils ont bouché les puits. Et le saboteur, pour moi, je trouve que ça colle bien au diable. Il veut boucher la bénédiction, le canal de bénédiction, il veut le boucher. Alors ils ont mis de la terre dans certains puits, dans d'autres on pouvait jeter n'importe quoi, voire mettre une bête morte. Si on prend une vache et qu'on la jette au fond d'un puits, l'eau elle est plus potable, elle est plus bonne. Et pour aller sortir quelque chose qui fait 300 kg au fond d'un puits qui est à 10 mètres, c'est pas simple. Tout ça pour ralentir la bénédiction, pour ralentir le processus que Dieu veut pour nos vies. nous empêcher de recevoir la bénédiction, chercher à boucher notre puits. Ils ont saboté. Et des fois, c'est pas les autres qui vont saboter mon puits. Je vais saboter mon propre puits. Parce que je ne suis pas vigilant. Parce que je ne tiens pas compte des encouragements et des consignes que Dieu me donne à travers sa parole. Veillez et priez. Je ne vais pas être vigilant. Le texte sur la sentinelle, je ne vais pas me l'approprier. J'en suis responsable, mon puits, je suis responsable. Le premier responsable du puits que je creuse avec Dieu, c'est moi. Le puits, c'est symbole du puits, je me suis dit, en général, c'est la vie. Après, ça peut être la bénédiction, c'est vrai, ça peut être la richesse, ça peut être la provision, parce que grâce à l'eau, je vais pouvoir donner à boire à mon bétail, je vais pouvoir arroser mes cultures, mes arbres fruitiers vont pouvoir pousser correctement, il va y avoir des fruits. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé un héritage à son fils. Et là, je me dis, nous, quel héritage on laisse à notre enfant, à nos familles? Donc je me suis dit comme ça, je me suis mis quelques petites notes. Abraham, donc il donne un héritage, quelque part, il donne un capital, il bénit son fils. Il le bénit pour la vie de tous les jours. Il lui transmet, quelque part, avec ce puits, il lui donne possibilité de pouvoir arroser ses cultures, etc. Mais il lui transmet aussi, il a vu son père creuser les puits. Donc dans sa façon de vivre, il est un témoin de ce qu'il faut être. Vous comprenez? Il va creuser le puits. Donc il n'a pas peur de l'effort, il travaille. Il est là et il s'investit. Il creuse le puits, il lui donne des valeurs. Il lui dit, tu vois, mon fils, si tu veux arriver à quelque chose, il faut te donner les moyens, il faut y arriver. Il faut entreprendre, il faut être volontaire, il faut se battre. Dieu nous bénit, c'est vrai. Dieu permet qu'on puisse avoir ses puits, qu'on puisse avoir le bétail, que les bêtes soient en bonne santé. Mais au départ, il a fallu que j'aie la volonté d'aller creuser le puits. Donc au départ, je dois avoir la volonté d'aller creuser dans la parole de Dieu. Je dois avoir la volonté d'aller chercher la source. Je dois aller à la source. Et je dois creuser. Je vais ouvrir la terre. Je vais y aller la chercher. Du côté spirituel, c'est... Je me dis, Abraham, comme on l'a vu vendredi, la transmission était orale de ce que Dieu avait fait par rapport au texte, on l'a vu. Donc Abraham, lui, a transmis à Isaac, il a raconté tout ce que Dieu avait fait et Isaac était bien concerné par rapport à quand il a failli mourir, que Dieu a pourvu par rapport au sacrifice, tout ça. Donc il en est conscient, il enseigne dans la foi. Il lui donne un héritage spirituel, il lui donne un héritage, un bien, mais il va lui transmettre un héritage spirituel. Il va l'enseigner dans la foi. Il va l'amener à avoir la crainte de Dieu. Comprendre. Se souvenir qu'on a besoin de Dieu. Il va voir son père avoir la relation avec Dieu, prier. Et il va voir la bénédiction de Dieu, l'exaucement de Dieu par rapport à la prière d'Abraham. Il voit tout ça. Et nos enfants, nos familles, voient la relation qu'on a avec Dieu, voient notre confiance en Dieu. Et quelque part, on les impacte. On leur donne... La voie à suivre. On leur montre le chemin et on leur transmet cet héritage. Est-ce que mes enfants voient mon amour pour Dieu? Est-ce que mes enfants voient la confiance que j'ai en Dieu? Est-ce qu'ils voient la relation que j'ai avec Dieu? Est-ce qu'ils voient que j'écoute quand Dieu me parle et que je suis obéissant à ce que Dieu me dit? Quel héritage je leur laisse? Est-ce que je suis... un Abraham où je montre l'exemple, ou est-ce que je suis un Philistin qui montre notre exemple et qui va mal parler du frère, qui va saboter quand un frère est en train de progresser dans la foi? Eh bien, je suis jaloux et je le sabote et je le brise dans ce que je vais dire. Je vais avoir des paroles qui vont le casser. Ou est-ce que je suis plutôt Abraham et je construis ma relation avec Dieu et mon fils ou ma fille est témoin de ça? Est-ce que mon voisin est témoin de ça? Ou est-ce que ma langue, je m'en sers pour mal parler? Question. Chacun répond. Et Isaac, lui, va faire pareil. Il va commencer par déboucher les puits. Je me suis dit, déboucher, il peut y avoir une notion de c'est facile. C'est facile, le trou est déjà fait, je vais juste déboucher. C'est vrai que c'est moins physique. Et quelque part, je me suis dit, c'est vivre sur ses acquis. Mais Dieu ne veut pas ça. On ne peut pas vivre sur la foi de mes parents. Dans le sens où je ne peux pas, je suis encouragé, je suis porté, je suis construit, on me donne quelque chose, on m'instruit. Mais si moi je ne creuse pas, si moi je ne vais pas vers Jésus et que je ne prends pas le salut qui est le mien, mon père est sauvé parce qu'il croit en Dieu. Mais si moi je ne crois pas, moi, je ne suis pas sauvé. On ne peut pas croire. Je ne peux pas croire par procuration. Je ne peux pas croire au travers de la croyance de mon père. Vous voyez ça? C'est le salut, c'est personnel, vous le savez. J'ai besoin, moi, d'avoir cette démarche avec Dieu. J'ai besoin, moi, d'aller chercher l'eau. J'ai besoin... Alors, déboucher, au départ, je me dis, c'est peut-être revenir aux racines. C'est peut-être revenir et me rappeler de ce qui m'a été enseigné par mes parents, ce qui m'a été transmis, ou ce que j'ai pu apprendre à l'école dimanche, si j'ai eu la chance d'aller à l'école dimanche. Donc, je commence par aller fouiller dans le puits qui a été comblé, parce qu'avec le temps, tout ce que j'ai entendu, eh bien, on l'a bouché, ça a été bouché par plein de choses, l'adolescence, tout ce qu'on veut, tout ce qui a pu arriver entre, qui a pu venir nous boucher. Donc, la première réaction, c'est je vais creuser, je vais chercher, je vais faire remonter ça. Je vais reprendre ce qui m'a été donné. Mais après, tout ça, je vais m'en servir pour aller creuser, parce que je me souviens comment mon père a fait, donc je vais aller creuser. Et je prends les outils et je vais aller creuser mon puits. Et donc, je vais creuser ma relation avec Dieu. Je vais aller creuser ma relation. Je me mets au travail. Je veux vivre ma foi, moi, ma propre relation avec Dieu. Faire mes propres expériences. Donc, le point positif des expériences de mon père, c'est que a posé en moi une base. Vos pères ou celui qui vous a amené à Christ, quelque part, pose en vous des bases parce que vous avez discuté avec lui, parce que vous lui avez posé les premières questions, les balbutiements dans la foi, vous lui avez posé la question. Et il a posé des bases avec vous. Donc ça, c'est bon. Mais j'ai besoin de faire mon puits. Je veux creuser mon puits. Ma relation personnelle. Un salut personnel. Et le Saint-Esprit va attester que je suis enfant de Dieu. Parce que je vais creuser, je vais voir, je vais comprendre la croix, je vais comprendre la résurrection, et je vais comprendre que c'est pour ma vie. Que ma vie, elle peut être changée complètement. La Bible dit que l'un sera pris, l'autre, et un autre sera laissé. On ne peut pas croire, vous ne pouvez pas croire pour votre fils, vous ne pouvez pas croire pour votre mari. Mes parents ne peuvent pas croire pour moi. Mon meilleur ami ne peut pas croire pour moi. C'est vraiment la notion de c'est personnel. Et creuser, ça demande une volonté. Donc je décide, je choisis de faire ce trou, je choisis de chercher. Et au début, ça paraît peut-être simple. La rencontre avec Dieu, ça paraît simple. C'est vrai que c'est très simple. L'évangile, c'est simple. On croit, comme Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite du Père. On croit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il nous a sauvés, il nous pardonne. Ça, c'est simple. Ça devient un peu plus dur avec le temps, dans le sens où, quand on arrive, quand on creuse, à un moment donné, on creuse, et ça, je l'ai vu quand je faisais les fouilles dans mon travail. Vous creusez, vous avez la terre qui est assez souple, à un moment donné, vous avez des cailloux, et à un moment donné, vous arrivez sur la Marne. La Marne, c'est l'endroit où coule l'eau. Sur la région de Toulouse, elle est très dure. Donc, c'est de la roche, vous attaquez la roche. Et en fait, c'est entre la partie terre et la partie roche, il y a une couche qui va être beaucoup plus noire, et c'est là que coule l'eau. Si vous voulez faire un puits, ce qui est logique, quand je vais creuser, je vais arriver là, et c'est là où ça va être dur. Mais si je veux une réserve d'eau, je suis obligé de dépasser l'altimétrie de l'eau, là où coule l'eau. Donc je suis obligé de briser cette roche et de m'ancrer dans la roche. Je m'ancre sur Jésus, je m'ancre en Dieu. Et je vais pouvoir faire mon puits. Et l'eau va pouvoir couler et remplir l'orifice que j'aurai fait. Et la partie qui est dure, je me suis dit, c'est briser cette roche. Cette roche, c'est des fois ce que l'on ne veut pas lâcher, déposer entre les mains de Dieu. Arriver à faire le puits pour retenir et capter l'eau de la vie, ce que Jésus veut me donner, je suis obligé d'accepter et de me pencher, de me courber, de m'humilier devant Dieu et reconnaître qui je suis et lui donner ce qui, quelque part, empêche que je puisse avoir cette réserve d'eau. J'ai besoin de le lui donner. J'ai besoin de passer cette partie dure de ma vie. J'ai besoin de la briser. J'ai besoin que Dieu la brise, que Dieu la casse, que Dieu la prenne pour pouvoir avoir cette réserve d'eau. Et c'est ça la partie, je crois, la plus dure. Croire en Dieu, quelque part, au départ, croire en l'œuvre de Jésus, c'est beau. Mais aller jusqu'au bout de la démarche, ça demande un effort. Vous êtes d'accord avec ça? Ça demande un effort. Et ça, je l'amène. Et je viens vers Jésus et si je dis, ok, je veux vraiment ce puits, je veux cette relation avec toi, je veux cette eau vive pour ma vie, je la veux. Je veux quelque chose, cette eau qui va me purifier, cette eau qui va me donner la vie, je la veux. Et bien alors, ok, j'accepte de d'être brisé quelque part. Et une fois allé à prêcher sur la souffrance, et j'accepte ce temps de souffrance. J'accepte ce temps où je suis obligé de tout te remettre et de dire, ben oui, ça fait mal. Je veux pas. J'ai l'impression d'être plus rien sans ça. Mais c'est pas vrai. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je te remets ça. Quelque part, ce paquet-là, c'est le frein de ta vie. Ce paquet-là, c'est le frein de ta vie. C'est ça qui bloque et qui permet, qui empêche que l'eau soit là, cette eau pure qui va couler dans ta vie. Elle est là. Et ça, vous y mettez le nom que vous voulez. Parce que chacun sait ce qui peut nous freiner. Je le pose à la croix. Et je vais être victorieux et mon puits va se remplir. Je creuse ma relation avec Jésus. J'approfondis ta parole. Et cette eau de vie, cette eau-là, cette eau que toi tu me donnes, elle vient. Elle vient, elle me remplit. Tu remplis l'orifice, tu le remplis complètement. Creuser, c'est un effort. Creuser, c'est du courage. Creuser, ça donne des ampoules. Creuser, c'est douloureux. Ça me donne des courbatures. C'est difficile, mais je ne suis pas tout seul. Jésus est avec moi. Ma relation, je la creuse avec toi. Jésus, tu me guides. La Bible dit qu'il nous guide par son esprit. Il nous conseille par son esprit. Il renouvelle mes forces pendant la marche. Il m'aide. Je vais y aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'à la source là. Et je veux creuser plus profond pour m'ancrer dans la roche. Et ce puits, je veux qu'il soit rempli par toi. Et je sais que Jésus est vivant et il prie pour moi. Il intercède à la droite de Dieu pour qu'on puisse arriver à ça. Il m'aide. Je creuse un puits pour ma vie. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Et Isaac, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas creusé qu'un seul puits. Il en a débouché plusieurs. Et il en a creusé au total 5. Il y en a 2 qu'on va, une fois qu'il les aura creusés, on va les lui reboucher. On va le chasser. On va le chasser. Il va en creuser 2, on va le chasser. Mais lui, pour ne pas avoir d'ennui, il s'en va. Il ne fait pas d'histoire. Et qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Je me dis, il fait ce que Jésus dit, si on veut prendre ta chemise, eh bien, tu lui donnes ton manteau. S'il veut quelque chose, eh bien, tu lui donnes davantage. On te demande de faire 1000, eh bien, tu fais davantage. Je ne cherche pas d'histoire. Ok. Tu veux boucher mon puits, tu veux prendre ma place. C'est pas grave. Je vais aller creuser ailleurs. Je sais comment je dois creuser. Je sais comment je dois faire. Et quelqu'un qui va prendre votre puits, je ne sais pas s'il aura la capacité de l'entretenir. C'est comme vouloir la bénédiction d'un autre, celle qui ne nous est pas appropriée. Les gens qui veulent prendre ce qui n'est pas pour eux, ils ne sont pas aptes à l'entretenir ou à le gérer. Mais ça, ils vont s'en rendre compte tout seuls. Ils risquent peut-être de se noyer dans son puits. Parce que c'est trop grand pour lui. Parce que c'est pas pour lui. C'était pas fait pour lui à la base. C'est pas lui qui l'a creusé. Il y a le puits de la conversion, je me suis dit, donc on rencontre Jésus. Puis après, il y a les puits de la marche avec Jésus, où je vais apprendre à déposer les choses avec lui. Les puits de la sanctification, peut-être aussi. Marcher davantage avec Dieu, plus près de Dieu. Peut-être que Dieu veut me donner de creuser un nouveau puits dans ma vie, pour découvrir quelque chose de nouveau avec lui. Donc je vais creuser. Pourquoi il aurait creusé plusieurs puits, Isaac? Il y en avait besoin, mais je crois que nous, des fois, peut-être qu'il faut qu'on en creuse davantage. Il n'y en a pas qu'un. Ne nous limitons pas à un puits. Je veux creuser de nouveaux puits avec Jésus. Pour lui, que cette eau soit toujours là. Le principe d'un puits, c'est je vais chercher l'eau en bas. Elle n'est jamais en haut. Elle est en bas. Donc il y a cette notion, je me courbe devant Dieu. Je me courbe. Je descends. Je viens près de toi. Je peux descendre par un escalier. Avant, on faisait des grands puits très très larges avec des escaliers tout autour, on maçonnait, ils descendaient les gens pour aller au puits. Ou alors, je peux descendre le seau. Mais il y a toujours cette action de descendre vers. Je regarde toujours là. Je vais chercher en bas. Quelque part, je me baisse. Et dans Jean 4, 14, Jésus va dire, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je veux cette eau-là. Je veux que Jésus étanche ma soif. Son eau à lui me donne du repos. Son eau est vie pour moi. C'est une eau, c'est la relation. Tous les jours, j'ai besoin de boire. Tous les jours, j'ai besoin de boire de l'eau de Jésus. J'ai besoin d'avoir de l'eau propre, de l'eau pure, l'eau qui me purifie. Et j'ai pensé à... Ça m'a fait penser à l'eau par le baptême. Je passe par les eaux du baptême. Je m'engage avec Dieu, en Jésus. Je crois au sacrifice de Jésus. Je crois ce qu'il a fait pour ma vie et je m'engage. Je veux cette eau pour ma vie. Il ne faut pas oublier de protéger notre puits. Avant, on mettait des grosses pierres sur les puits pour protéger, pour pas qu'il y ait une bête qui chute. Donc notre rôle, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des fois, c'est à nous d'être vigilants pour que notre puits ne soit pas sali ou que notre puits ne soit pas bouché, empêché. Et ce qui me protège aujourd'hui, ce qui m'aide, c'est le sang de Jésus. À protéger le puits de ma vie, c'est le sang de Jésus qui me protège. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Jésus est sorti du tombeau. Et Jésus, cette pierre, il peut s'en servir peut-être pour protéger mon puits aussi. Parce que lui, il est vivant. Lui, il peut protéger mon puits. Comme le sang qui a protégé les Hébreux en Égypte, quand la mort est passée. Jésus me protège. Je me place sous son autorité. Et l'eau va me rafraîchir, l'eau va me laver, l'eau me purifie, l'eau me pardonne quelque part. Jésus me pardonne, il me donne la vie éternelle. L'eau va permettre que je m'enracine en lui, parce que mes racines vont se développer puisque mon arbre est arrosé. Mes racines poussent. Mais va me donner de grandir dans une verticale relation avec lui, mais dans une relation horizontale aussi, parce que les arbres, ils grossissent et ils grandissent. Et nous, c'est pareil, dans notre relation avec les autres. Nos branches vont s'étendre et on va toujours aller vers la lumière, vers Jésus, vers Dieu. L'eau va me donner, si je suis arrosé, de l'eau de vie de Jésus va me donner de porter du fruit. Pas être comme le figuier qui portait pas de fruit, que Jésus a maudit. Mais si je suis arrosé, qu'il y a l'eau de vie en moi, l'eau de Dieu, pas l'eau de vie à boire, hein. L'eau de Dieu, je vais porter du fruit. Un arbre qui grandit et qui va pouvoir abriter quelqu'un, abriter un autre. Avoir une zone d'ombre peut-être pour celui qui est fatigué. Quelqu'un qui va pouvoir se reposer, que je vais conseiller avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, je vais pouvoir encourager quelqu'un. Parce que ça ne sera pas moi, parce que je vais être renouvelé. Et tous les jours, je bois de l'eau de Jésus, je bois la source de la vie. Et donc, je peux encourager quelqu'un. Ce n'est pas mon conseil à moi. C'est l'eau qui me donne, qui me régénère, qui me donne la vie que je vais communiquer. Si vous le conseillez vous-même, ça ne marchera pas. Entre guillemets, ça ne va pas porter de fruits dans sa vie. Mais si c'est l'eau de vie de Jésus qui est en vous et qui transparaît partout, alors vous allez encourager. Alors vous allez pouvoir abriter quelqu'un, protéger quelqu'un. Ma relation avec Dieu. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Alors je me suis dit, celui qui creuse, eh bien, il va trouver de l'eau. Il va trouver Jésus. Il va prendre. La Bible nous encourage. On a un effort à faire, mais Dieu va nous combler. Et des fleuves d'eau vive vont couler de nous. Creuser et persévérer dans notre démarche avec Dieu, aller jusqu'au bout, aller jusqu'à se trouver la source. Creuser. Il y a des fois, il y a des puits, il faut descendre à 10, 20 mètres, 30 mètres peut-être en fonction de là où on est, mais c'est pas grave. Si Dieu nous dit c'est là, parce qu'à Isaac, Dieu a dit tu restes là. Donc si Dieu vous dit reste là, obéissez et creusez. Allez chercher l'eau. Il y a la source qui est là. Dieu veut nous encourager, être inondé de son eau, être rempli du Saint-Esprit. Prendre l'exemple d'Isaac et creuser d'autres puits aussi, ne pas se contenter de un. Creuser là où Jésus veut. Continuer. C'est pour Jésus, c'est avec Jésus. Recevoir de lui. Amen. Voilà, c'était vous encourager, creuser. Creuser sa parole, creuser en lui. Que sa source soit en nous, son Saint-Esprit soit en nous. Et qu'on soit porteur de vie. Qu'on puisse donner à boire aux autres. En Jésus. En Jésus. De la part de Jésus. Étancher la soif de quelqu'un. Être au bon endroit pour donner à boire à la personne. Donner le verre qui va bénir. Dans l'action de donner le verre, c'est pas simplement l'eau. Ça peut être vraiment ce qu'il a besoin de recevoir de la part. Cette eau vive pour sa vie. De manière à ce que lui aussi puisse... Que son eau qui va recevoir de la part de Jésus puisse jaillir dans la vie éternelle. Que ce verre, ça soit celui de la source, pas celui qu'on aura donné nous, et qu'on donne l'eau de la source. Amen. Soyez bénis.